Bonjour à toutes et à tous, Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. À la technique et à la réalisation, mon complice Grégor et votre serviteur André Satenza. En direct du studio Gisèle Halimi, je reçois aujourd'hui Madame Olivia Lévrier, directrice générale de l'ASEI. Alors c'est important de commencer par agir, soigner, éduquer, mais un changement c'était insérer, aujourd'hui inclure. Je me suis trompé, Madame Lévrier ?
C'est tout à fait ça.
C'est tout à fait ça. Donc Madame Lévrier, soyez la bienvenue à Esprit Occitanie. Vous avez lancé, il y a quelques mois, 18 mois, un gros chantier dans votre association pour revoir votre projet associatif, des ambitions. Mais avant de parler de votre projet associatif, il faut parler de vous. Vous êtes diplômé de la prestigieuse université de Rennes. Vous avez fait l'école de Rennes. L'école de la santé, mais avant, vous avez fait un master, et avant, vous avez fait également Sciences Po Grenoble. Comment on pense des sciences politiques à la santé ? C'est un parcours, c'est calculé. Comment on fait ça ?
C'est une très bonne question. Ce qui était intéressant, en tout cas, ce qui m'a toujours plu dans les études de sciences politiques, c'était la sociologie des organisations, la place de l'État, la place des droits fondamentaux. Et naturellement, la santé publique, c'est aussi tout ça. C'est de l'économie, c'est de l'organisation, c'est aussi la place qu'on donne à la santé dans une démocratie, la place qu'on fait aux patients dans un système de soins. Et on peut considérer que les politiques du handicap, les politiques de santé publique sont... Enfin, en tout cas, quand on travaille dans ce secteur-là, c'est aussi par intérêt pour toutes ces politiques publiques.
Vous avez démarré votre carrière au centre hospitalier de Rouen, ensuite un passage par l'ARS Occitanie. Alors, ARS Occitanie étant d'abord au niveau départemental, mais ensuite également au niveau régional, on pourrait dire que vous montez les échelons, vous êtes exemplaire, une professionnelle de haut niveau, vous étiez à la tête de l'offre de soins et de l'autonomie. Et comment arrive-t-on dans une association aussi importante que celle de l'ASEI ? Parce que vous allez quand même le présenter. C'est plus de 3 000 salariés. Mais alors, le passage
alors,
de l'ARS...
Alors, je crois que...
Comment ça se fait, cela ?
Alors, peut-être dire que j'ai beaucoup de chance dans mon parcours. D'abord, parce que sur chacun de mes postes, j'ai eu la chance d'avoir comme directeur général ou comme directrice des personnalités très inspirantes. Je peux citer Jean-Jacques Romaté, avec qui j'ai travaillé lorsque j'étais aux hôpitaux de Toulouse. Monique Cavalier, qui a été ma directrice générale et mon mentor aussi, et qui a joué un rôle très important dans cette carrière. Et c'était quand j'étais à l'ARS Occitanie que j'ai eu la chance de travailler avec Philippe Jourdi. Et c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de lui rendre hommage. Et en travaillant au sein de la commission spécialisée médico-sociale, je le connaissais depuis longtemps, il m'a dit « Écoute Olivia, tu devrais un petit peu t'intéresser au handicap. Tu vas voir, c'est un secteur qui est très riche, très attachant et je suis sûre que ça te plairait. » Alors vous connaissez Monsieur Jourdi, il a essayé une fois, deux fois, trois fois et puis au bout d'un moment, j'ai cédé.
Il était
opiniâtre. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à l'ASEI, j'avais pris les fonctions à l'époque de directrice du centre Paul Dautin à Ramonville et directrice du bassin Cité de l'autonomie et de l'insertion. Alors, les bassins à l'ASEI, c'est l'organisation territoriale de l'ASEI. Vous l'avez dit, c'est une très grande association qui compte une centaine d'établissements. Et donc, tous les établissements sont regroupés en bassins. Donc, j'ai été à l'ASEI d'abord directrice d'établissement, puis directrice bassin. Puis, des missions m'ont été confiées au siège social pour que je puisse appréhender vraiment l'ensemble de la totalité de l'ASEI. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir la confiance de notre présidente, Nadine Barbotin, qui m'a nommée directrice générale depuis le mois de juin 2022. Voilà,
et
avec le soutien...
l'aventure continue.
Avec le soutien du bureau, bien sûr.
Et après cette nomination, un grand chantier, quasiment 18 mois de travail intense. J'ai lu dans les communiqués de presse que vous avez lancés via votre service de communication... Deux phases de travail importantes, une première phase d'évaluation de votre ancien projet, mais qui était quand même déjà un projet très ambitieux.
C'est vrai.
Il y avait quand même de l'épaisseur humaine, comme on dit. Il y avait une envie d'être différent déjà.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que les trois précédentes ambitions de notre projet associatif, sur le projet associatif précédent, on les retrouve aujourd'hui. Finalement, mais je dirais pas dans le même ordre et pas avec la même intensité. Et les objectifs et les fins, plutôt ce qui était considéré comme une fin en soi dans le précédent projet associatif devient aujourd'hui finalement un moyen d'arriver vers un objectif encore plus ambitieux. Il y a une forme de dialectique qui est intéressante. Dans le précédent projet associatif, on démarrait par la personne accompagnée pour finir par la transformation de la société. Là, on s'est dit, si on ne commence pas par agir, militer et essayer de faire bouger la société, tout ce qu'on essaiera d'enclencher à l'échelle de nos établissements, de nos partenariats ou de nos projets personnalisés, auront peut-être moins d'impact. Voilà. Donc, on s'est dit, sur ce nouveau projet associatif, le point de départ, c'est vraiment militer pour une société inclusive. Ensuite, travailler, bien sûr, sur l'ambition de travailler sur l'autodétermination, mais en tant que moyen au service de la qualité de vie et pas l'autodétermination comme une fin en soi. Et puis la troisième, bien sûr, agir pour des parcours singuliers et adaptés. Et là, on retrouve toute la personnalisation des parcours et l'appui à la demande. Mais je pense qu'on y reviendra.
On y reviendra.
En tout cas, c'était pour montrer le lien, effectivement, vous avez raison, à la fois la continuité entre ces deux projets et le de voir aussi la progression de l'ASEI à chaque étape de ces différents projets associatifs.
Parce que là, vous avez un slogan important.
Agir.
Un cri de guerre, pourrait-on dire, quasiment. Ouais. Pour agir pour les possibles. Donc, rendre possible ce qui est souhaitable, c'est ça, agir pour les possibles. Tous les mots ont leur importance, là. Hein,
alors, effectivement, oui, bah c'est surtout vous.
Vous les avez pesés, là.
Surtout
là,
vous
surtout
qui accordez.
Cette question des possibles, il y a vraiment un enjeu politique, là, et philosophique, quand même.
Oui. Alors, c'est vrai qu'on est sur peut-être un paradoxe, puisqu'à la fois, on est sur un verbe d'action, agir, et à la fois, on a rendu l'adjectif possible, finalement, on l'a transformé en substantif, puisqu'on a les possibles. Donc, on transforme en nom, ce qui est d'habitude un adjectif, puisque le nom, c'est la possibilité, mais voilà, le champ des possibles.
Et oui, là, le champ des possibles.
Voilà, et là, on a dit, on va appeler ça « tous les possibles ». Donc, voilà, on a aussi joué sur sur ces mots, et c'est vraiment la logique de se dire qu'on ouvre les portes, on ouvre nos perspectives, on ouvre nos points de vue et on essaye à chaque fois de trouver des solutions, de trouver des réponses, plutôt que d'être dans une logique restrictive, une logique d'offre, une logique de place. Là, on va être sur dites-nous vos attentes, dites-nous vos projets, vos rêves et essayons de les rendre possibles.
L'ensemble des parties prenantes se sont investies dans ce projet, dans la phase dite d'évaluation, quand même avec un travail avec les familles, avec des professionnels, avec des partenaires. Si mes fiches sont justes, 42 partenaires, plus de 700 professionnels, et puis une phase dite, pourrait-on dire, de contribution, voire même délibérative, quoi. C'est-à-dire que la démocratie ne s'arrête pas aux portes de l'ASEI, on pourrait dire ça. Donc il y a eu une partie délibérative avec des contributions fortes, plus de 500 contributions. Alors là, pour faire le choix, vous avez peut-être dans les nombreuses contributions, il y a eu peut-être de la frustration parce qu'il a fallu quoi, les regrouper, peut-être en éliminer. Dites-nous comment s'est passée cette phase de contribution, parce que c'est important, les contributions intellectuelles.
Oui.
Tout le monde est allé de son écriture.
Oui, oui, vous avez raison de dire que toutes les phases ont été importantes. Faire le bilan du précédent projet associatif, effectivement, c'était indispensable pour partir déjà des acquis précédents. Essayer de... On a fait un questionnaire très, très large. Hein, vous l'avez souligné pour avoir l'ensemble des points de vue de toutes les parties prenantes que vous avez citées. Et ensuite, on a voulu essayer d'organiser sur chaque bassin des rencontres avec les familles, avec les personnes accompagnées, les partenaires, pour essayer de faire émerger, sous forme de brainstorming, le maximum de propositions, d'idées, de suggestions qui venaient effectivement des personnes elles-mêmes, de leurs proches, de nos professionnels aussi qui ont beaucoup contribué. Et puis après, effectivement, il y a eu comme souvent une priorisation, une synthétisation aussi, un regroupement des idées fortes qu'on a pu avoir. Et puis, je pense par exemple à l'autoreprésentation, qui est maintenant un des concepts qui est important dans notre projet associatif aujourd'hui, qui est venu des personnes elles-mêmes, qui nous ont dit « mais nous, on aimerait bien qu'à chaque fois, qu'on nous laisse parler pour nous-mêmes, qu'on nous laisse dire ce qui est important pour nous, qu'on nous laisse participer à la prise de décision des sujets qui nous concernent, que ce soit les adultes ou les parents, quand il s'agit des enfants. Voilà. Mais ça a été vraiment exprimé, qu'on ne parle pas à ma place, qu'on ne choisisse pas pour moi. Voilà, donc ça a été, on est aussi reparti de mots...
C'est un changement de paradigme
de mots très, très concrets de la part des personnes qui nous ont dit « maintenant, nous, on veut avoir la main sur les choix qui nous importent, qui nous sont chers. » Et ça, c'est vraiment venu, effectivement, du terrain.
Est-ce que les professionnels n'ont pas été un peu secoués quand on dit ça, de l'auto-représentation, on a des mots à dire, c'est un changement de paradigme important, quoi.
Effectivement, et en même temps,
on peut être impacté, y compris par...
Et moi, je trouve que c'est aussi très valorisant pour les professionnels.
C'est valorisant.
Parce que ça veut dire, pour les professionnels, que leur compétence, leur expertise, leur savoir-faire, elle est au service du projet des personnes et que ça suppose, bien sûr, que nos professionnels soient à l'écoute, soit dans l'observation, soit en appui, soit en soutien. Et c'est bien là qu'est tout leur rôle aussi. Et je trouve que pour un professionnel, c'est aussi très valorisant de devoir réfléchir à sa pratique, réfléchir à être à l'écoute de la demande, plutôt que d'être dans une position, si je caricature à l'extrême, ce qui est bien sûr pas le cas aujourd'hui, dans une position de sachant ou dans une position de savoir ce qui est bien pour l'autre, alors que c'est quand même très très difficile de savoir ce qui est bien pour autrui.
Votre présidente, Madame Nadine Barbotin, utilise le mot « militer » en majuscule, hein. Il faut militer. Alors militer, le travail de militance aujourd'hui est nécessaire. Mais pourquoi aujourd'hui plutôt que hier, alors que nos associations issues de l'éducation populaire ont toujours milité? Pourquoi faut-il militer encore plus aujourd'hui? On est en retard sur un certain nombre de dossiers. La République française n'est pas exemplaire. Quelle est votre analyse? Surtout dans cette question, ma place est en classe. Au moment où nous disons cela, où nous revendiquons cela, on sait malheureusement qu'il y a des enfants qui ne sont pas en classe, qui ne sont pas à l'école.
Et pourtant, ils devraient être
à l'école.
Et vous avez tout à fait raison. On pourrait se dire finalement pourquoi on milite encore en 2024 alors qu'il y a eu la loi de 75, la loi 2002, la loi 2005 dont on va fêter les 20 ans l'année prochaine. Alors qu'est-ce qui fait qu'il faut encore dire aujourd'hui, non, je revendique et je veux une place à l'école, une place dans l'entreprise, je veux un accès aux soins adaptés à mes besoins, je veux aller au spectacle, je veux prendre le métro, je veux partir en vacances, je veux choisir mon partenaire sexuel et avoir la vie que je souhaite. Voilà, et je pense qu'il faut encore pousser les murs, revendiquer, exiger, mais on peut parler du droit des femmes, on peut parler du droit des enfants, on peut parler de la place des personnes en situation de handicap. Il y a encore à se battre aujourd'hui pour faire entendre le respect des droits fondamentaux que ce soit dans nos associations, dans nos établissements, dans nos services, et bien sûr, au cœur de la société civile.
Cynthia Fleury, psychologue et psychanalyste, dit la France, notre République, est un pays de la proclamation des droits. Mmh. On proclame les droits, malheureusement, ils ne sont pas effectifs. Ouais. Ils ne sont pas effectifs, il faut donc continuer à militer, c'est ce que fait, ou en tout cas, ce que déclare votre présidente, Madame Barbotin. Mais
Peut-être aussi, excusez-moi, en complément, c'est aussi l'idée de dire que nos associations, pour partie de leur action, sont délégataires d'une mission de service public, ont à rendre des comptes aux autorités de contrôle et de tarification dans le cadre des CPOM, dans le cadre des budgets qui sont alloués. Et ça, c'est la partie, je dirais, gestionnaire de la vie de nos associations. Mais nos associations ne sont pas que gestionnaires. Elles sont aussi militantes.
Elles veulent transformer la société.
Voilà, elles ont aussi un rôle au sein de la société civile pour faire bouger les lignes, pour faire entendre la voix, pour s'assurer du respect des droits fondamentaux. Et ce n'est pas parce que d'un côté, on est dans un dialogue de gestion qu'on ne peut pas aussi, de l'autre, être sur une forme de militance, de mobilisation qui suppose qu'on prenne la place qui est la nôtre au sein de la société civile.
Avant d'aller plus loin, toujours sur le projet associatif, je rappelle, agir pour tous les possibles. Je vous propose d'écouter Moustaki, votre fille à 20 ans.
Votre fille à 20 ans, que le temps passe vite, madame, hier encore, elle était si petite et ses premiers tourments sont vos premières rides, madame, et vos premiers soucis. Chacun de ces 20 ans, pour vous à compter double, vous connaissez déjà tout ce qu'elle découvre. Vous avez oublié les choses qui la troublent, madame, et vous troublez aussi. On l'a trouvée jolie, et voici qu'elle est belle pour un individu presque aussi jeune qu'elle, un garçon qui ressemble à celui pour lequel, madame, vous aviez embelli. Ils se font un jardin d'un coin de mauvaises herbes, nouant la fleur de l'âge en un bouquet superbe. Il y a longtemps que nul ne vous a mis en gerbe, madame, le printemps vous oublie. Chaque nuit qui vous semble à chaque nuit semblable, pendant que vous rêvez vos rêves raisonnables de plaisir et d'amour, ils se rendent coupables, madame, au creux du même lit. Mais coupable jamais, n'ont eu tant d'innocence, aussi peu de regrets et tant d'insouciance qu'ils ne demandent même pas votre indulgence, madame, pour leur tendre délit. Jusqu'au jour où peut-être, à la première larme, à la première peine d'amour et de femme, il ne tiendra qu'à vous de sourire, madame, madame, pour qu'elle vous sourie, pour qu'elle vous sourie.
Esprit Occitanie, toujours en direct au studio Gisèle Halimi avec madame Lévrier Olivia, la directrice générale de l'ASEI, Agir pour tous les possibles, le nouveau projet. Pour 5 ans, ce nouveau projet, c'est ça, vous vous donnez une vision
On a dit 2030, c'est pour se donner un petit peu d'oxygène.
Un peu d'oxygène. Vous ne pouvez pas lancer des phases d'évaluation, voilà, de contribution. Alors, il y a des choses qui sont importantes dans le projet associatif. Vous dites que chaque mot doit être mesuré, doit être bien prononcé. Vous dites 3 ambitions, 9 engagements, et puis ensuite on décline cela avec un certain nombre d'actions dans vos établissements. dont la première des ambitions, militer pour une société inclusive, ouverte, solidaire, afin de garantir l'effectivité des droits. Voilà la militance, on disait tout à l'heure. Il ne faut pas rester à la proclamation. Faisons en sorte qu'on puisse mettre du réel dans l'amélioration des personnes en situation de handicap. Et là, vous avez tout le conseil d'administration qui est mobilisé pour militer, c'est ça ?
On peut le dire ? Tout à fait, voilà. Et j'espère les 3000 professionnels de l'ASEI aussi, parce qu'on leur a dit que... voilà. On pense aussi
qu'il faut des professionnels militants, pas des militants professionnels.
Peut-être pour certaines causes, mais en tout cas, au sein de l'ASEI, c'est important aussi que chaque professionnel, chaque famille, chaque personne accompagnée puisse s'emparer de ce projet associatif, le faire sien et participer à sa réalisation. Bien sûr, le conseil d'administration, l'Assemblée générale l'ont validé, l'ont rendu possible, mais je pense que si on veut le mettre en œuvre, il faut que chacun puisse le faire sien.
Vous allez publier une sorte de plaquette, de document. Vous avez dit que vous allez le mettre sur les sites, dans les réseaux sociaux, etc. L'important, c'est qu'on en parle beaucoup et qu'on en parle dans toutes les instances.
Tout à fait, et qu'à chaque fois qu'on...
Et en faire référence.
Voilà, à chaque fois qu'on organise un projet, qu'on organise un partenariat, cette semaine, la semaine dernière, on a organisé une journée sur vie intime, affective et sexuelle et handicap, on est au cœur du projet associatif. Donc c'est aussi dans nos actions de formation, dans nos actions de partenariat, encore une fois dans nos projets, de pouvoir se raccrocher toujours à nos engagements et nos ambitions du projet associatif.
Militer, c'est aussi restaurer, réhabiliter du droit là où il n'y avait pas de droit, quoi, où les personnes qui sont éloignées du droit. Donc, on est vraiment dans l'accessibilité universelle.
Bien
c'est
sûr.
Ce que vous défendez, quoi. Plus que jamais, quoi.
Tout à fait.
Autre ambition, c'est décider et avoir le choix pour une meilleure qualité de vie. Là aussi, c'est ambitieux, hein, comme vous dites, trois ambitions, le terme ambition, la qualité de vie de la personne accompagnée, en tout cas de toutes les personnes, enfants et adultes, quoi.
Oui, alors c'est vrai que l'autodétermination, c'est un moyen au service de la qualité de vie. Quand on choisit, quand on avance sur l'autodétermination, c'est-à-dire choisir pour soi, faire ses priorités, c'est aussi pour pouvoir se réaliser, s'auto-réaliser, avoir du pouvoir sur sa vie, avoir du pouvoir sur ses choix et au final, être épanoui, être heureux parce qu'on a pu mettre en œuvre sa vie comme on l'a souhaité et réaliser ses choix et ses priorités. Donc, c'est pas l'autodétermination, c'est pas finalement, on se limite à donner le choix, c'est donner le choix pour viser l'épanouissement et la qualité de vie.
Vous parlez dans votre texte d'autodétermination et vous savez que nos amis québécois et notamment un des penseurs du développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectifs, M. Le Bossé, eux, nos amis canadiens, nos frères, pourrait-on dire canadiens, parle plutôt de développement d'agir des personnes et non pas d'autodétermination. Pour vous, c'est la même chose ou est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce qu'il y a une appréciation particulière ?
Alors moi, je fais souvent référence à Martin Caouette, hein,
oui, qui est professeur aussi,
qui a la chaire de justement d'autodétermination à l'Université Québec Trois-Rivières. Je pense que toutes ces notions, elles ont une définition différente, mais elles se regroupent dans un même faisceau qui est l'empowerment, le pouvoir d'agir, qui est le fait de décider pour soi des orientations de sa vie. Alors, il y a l'autoreprésentation, l'autodétermination, l'autoréalisation. Il y a différents concepts au service de ce pouvoir d'agir qui est de pouvoir avoir la main sur son parcours, sur sa vie, sur ses choix.
Je dois décider, il faut faire en sorte que je puisse décider pour moi. Autre grande ambition, c'est agir et innover de manière durable et responsable. Alors là, vous faites appel à la RSE dans un parcours singulier et adapté. Donc l'institution doit s'adapter, les parcours singuliers, pas particuliers, singuliers. Chacun une singularité. C'était pas... Vous avez dit chaque mot a son importance. Là, vous l'avez aussi choisi. Et alors, comment cela se met en œuvre dans les projets que vous développez au sein de votre association ? Cette singularité, comment peut-on mettre en œuvre cette singularité ?
Eh bien, c'est difficile. Hein. On a mis, effectivement, quand vous parlez d'ambitieux, oui, c'est ambitieux. Ça doit nous imposer, en tout cas nous obliger à réfléchir, de proposer vraiment à chaque fois une solution adaptée aux besoins de chaque personne et pas de calquer notre offre ou ce qu'on sait faire et de projeter sur une offre existante. Faire coïncider les besoins de la personne à l'offre existante, c'est plutôt être vraiment en appui à la demande et être peut-être inventer des réponses qui n'existent pas aujourd'hui.
Donc vous souhaitez expérimenter.
Voilà, et avoir, on l'a cité dans notre projet, mais des nouveaux métiers de facilitateurs, de coordonnateurs de parcours de vie pour être vraiment à l'appui du projet de chacun.
Pour réussir cela, en tout cas cette ambition, on verra ensuite les engagements, il faut des professionnels de haut niveau. On sait que c'est souvent tendu, les ressources humaines, à l'ASEI c'est pas tendu. Vous arrivez à recruter des professionnels de haut niveau qui ont envie de s'engager?
Non mais que vos auditeurs voilà, le sachent, les gens se battent pour venir travailler à l'ASEI.
Très bien,
voilà.
Très bien.
Il faut le savoir.
Quand il y a un projet ambitieux, c'est peut-être plus facile aussi de recruter.
Je plaisante parce que bien sûr, comme tous les acteurs du secteur médico-social, c'est un défi quotidien de recruter, de fidéliser, de proposer aussi des parcours professionnels adaptés aux attentes et aux ambitions de chacun. Parce que quand on parle de parcours pour les personnes accompagnées, moi je parle aussi de parcours professionnel pour nos collaborateurs, parce qu'il faut donner la possibilité à chacun d'exercer ses compétences avec un métier de son choix, avoir la main sur l'organisation de son travail, pouvoir évoluer au sein de l'ASEI et au sein d'autres, bien sûr, d'autres employeurs du secteur, et pouvoir accompagner cette promotion professionnelle et ces parcours. Donc ça suppose des compétences, bien sûr, de l'expertise, et on a beaucoup insisté dans notre projet associatif, mais sur toute la valeur et l'importance qu'ont, bien sûr, qu'a chaque professionnel à l'ASEI pour être garant de la mise en œuvre de ce projet.
Il y a aussi beaucoup de recherches autour de la question de la pérédance,
oui,
et la reconnaissance des savoirs expérientiels. Oui. Aujourd'hui, dans beaucoup d'écoles dites du travail social, on fait des thèses, y compris au CNAM, sur ces questions-là, les savoirs expérientiels. Vous revenez dans votre projet associatif pour donner sens, la pérédance, et y compris l'expertise des jeunes ou adultes en situation de handicap. Ils ont une expertise de leur handicap.
Bien sûr, ils ont une expertise. Ils connaissent effectivement énormément de choses sur le quotidien, sur la manière avec laquelle ils vivent leur handicap, et sont bien sûr aussi très précieux quand ils échangent entre eux. Je pense par exemple sur les CESAD.
Les CESAD pour nos auditeurs.
Oui, alors les CESAD, les services d'éducation et de soins à domicile, souvent on est sur de l'accompagnement individuel. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des professionnels qui vont à l'école, au collège, à la maison pour des rééducations spécifiques. Et donc, c'est ce qu'on appelle de l'inclusion individuelle. Un CESAD, il accompagne à chaque fois un jeune, un enfant. Et ce dont on se rend compte, c'est que ces enfants, finalement, qu'on accompagne, ils sont souvent seuls dans la situation dans laquelle ils sont, dans la classe où ils sont. Donc, ils sont en inclusion avec d'autres élèves. Et donc, on organise des temps de pair aidant, c'est des temps de regroupement sur les CESAD, et on se rend compte à quel point les jeunes collégiens apprécient de se retrouver entre eux et d'échanger sur leurs pratiques, sur leur vécu, sur leur expérience. Ils ont bien sûr besoin d'être avec tous les jeunes du même âge dans leur classe, et il n'y a pas... bien sûr que cette inclusion individuelle, elle est extrêmement précieuse, mais c'est aussi très précieux de pouvoir à certains moments avoir ces temps de regroupement collectif pour pouvoir partager, se souder, partager un vécu commun. Voilà. Et donc cette pair aidance, il faut pouvoir l'encourager, il faut former aussi les professionnels pour pouvoir l'accompagner, il faut aussi accompagner les familles, puisque cette pair aidance, elle existe aussi beaucoup chez les parents, qui peuvent s'appuyer les uns les autres.
Il faut aussi parfois soulager les parents, les soutenir, parce que c'est difficile. quand on a quelqu'un dans la famille en situation de handicap,
bien sûr.
Personne âgée, adulte ou enfant, on a vu parfois un épuisement. Donc il faut soutenir les aidants.
Exactement, repérer les signes effectivement
les signes de faiblesse,
de fatigue chez les aidants, repérer les besoins d'appui, proposer des offres aussi à certains moments. Alors, c'est vrai qu'on parle de répit, alors c'est pas toujours un joli mot.
C'est pas un joli mot, mais c'est vrai.
Répit, puisque c'est un temps pour souffler entre deux souffrances. Je pense pas que ce soit une souffrance de vivre avec... une personne en situation de handicap au quotidien dans une famille. Donc répit, c'est vrai que c'est pas un mot qui a en tout cas des connotations qui peuvent être négatives.
En tout cas, les familles ne vivent pas ça
comme un répit. Ils se disent, j'ai besoin d'un week-end pour pouvoir aller à un événement familial et nous, de pouvoir proposer effectivement des accompagnements sur d'autres temps, les week-ends, les vacances, les soirées, pour pouvoir être en appui des familles. Mais voilà, j'aime mieux l'idée d'être en appui, en support, en soutien, qu'en répit. Voilà.
Autre grande ambition, c'est le changement de posture professionnelle. Alors là, vous allez au professionnel, vous dites notre projet 2030 engage les professionnels dans une dynamique de changement, encourager l'accompagnement, des dispositifs, expérimenter. Vous venez sur cette question de l'expérimentation. Il faut inventer les outils de demain. Ou inventer les dispositifs de demain. Et s'il n'y a pas d'appel d'offres ou appel à projet, peu importe, on les lance quand même. Parce que c'est à nous de les lancer. Vous avez une responsabilité. Peut-être que la puissance publique viendra après.
Oui, et vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est aussi notre responsabilité d'être force de proposition. Voilà. Et d'aller nous-mêmes... bouger les lignes, prendre des initiatives, expérimenter, plutôt que d'attendre qu'on vienne nous chercher, aller au contraire proposer et inventer nous-mêmes les solutions de demain.
Et dans les partenariats, vous avez abordé ensuite dans vos engagements des partenariats avec d'autres associations, avec d'autres fondations dans le secteur social, médico-social et sanitaire. Où en êtes-vous ? Sans dévoiler toute la stratégie de l'ASEI, mais quand même, ce qui est public, ce que vous pouvez en dire.
Là aussi, on pense que c'est extrêmement précieux d'agir sur les territoires avec l'ensemble des ressources du territoire et avec nos partenaires. Sur de très nombreux sujets, l'ASEI ne peut rien faire toute seule. Voilà. On a besoin de s'appuyer sur les entreprises, sur les établissements de santé, sur d'autres, sur l'ANRAS, sur l'ARZEA, sur Réseau, l'IMCA, je cite tous
oui,
nos partenaires,
partenaires que vous
aussi,
avez,
parce que je pense à l'emploi accompagné, par exemple. On est 4 associations sur l'emploi accompagné, sur les équipes mobiles d'appui à la scolarité aussi. Et on ne travaille plus tout seul aujourd'hui. On travaille en réseau, en partenariat. Il y a des sujets sur lesquels on n'est pas compétent, on n'a pas forcément l'expertise et on va aller s'appuyer sur nos collègues qui, eux, sont plus compétents ou plus experts sur d'autres sujets. Et c'est tout le sens de notre engagement 8 quand on parle des partenariats et des synergies territoriales. C'est d'aller trouver la réponse là où elle est, au sein de l'association ou au sein de l'entité qui la propose. Alors, quand c'est l'ASEI, c'est très bien. Et quand ce n'est pas l'ASEI, c'est très bien aussi. Et de savoir composer avec les ressources d'un territoire.
Les actions de l'ASEI ne se limitent pas à la région Occitanie. Vous êtes également sur Paris, si mes sources d'informations sont justes. Vous êtes dans la Nouvelle-Aquitaine également. Donc, vous avez une vocation, pourrait-on dire, nationale. Que vous ayez un ancrage territorial fort... parce que les
Occitan.
Fondateurs, c'est Occitan. En revanche, on peut pas, vous n'allez pas vous interdire d'aller expérimenter ailleurs. En tout cas,
c'est
l'ambition de la directrice et de la présidente.
Oui, tout à fait.
Alors, je vous propose d'aller au soleil en Amérique latine et de voir une jeune chanteuse qui, en ce moment, fait un tabac dans les réseaux.
Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.
si antes te hubiera conocido. Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa, por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa, y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esta gana que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarás bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, ¿qué hubiera sido ahí si antes te hubiera conocido? Seguramente estarás bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, y yo te veo y no sé cómo actuar, bebé, pa' conquistarte, que me pase en el manual. Espero lo que sea, yo no me voy a quitar. Tengo fe que sos solito, un día me van a mirar. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido pa' presentarte como mi marido. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido pa' presentarte como mi marido. No has entendido que no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esta gana que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido?
Après le soleil, on revient à l'ASEI, donc agir pour tous les possibles nouveaux projets avec sa directrice, Madame Olivia Lévrier. Parlons maintenant de l'ASEI. Alors l'ASEI derrière, grosse machine pourrait-on dire, grosse association, vous avez dit plus de 3000 salariés. Un budget de combien pour réaliser toute votre ambition et tous vos engagements?
Là, on est autour de 250 millions d'euros.
Alors financement, qui finance
Alors financé à plus de 70% par l'ARS Occitanie.
D'accord.
Voilà, donc quasiment les trois quarts de nos ressources viennent de l'ARS Occitanie, soit par l'intermédiaire de notre très important contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, donc notre CEPOM médico-social, soit au travers des financements qu'on a pour nos établissements de santé, SMR Matisse et SMR Paul Dautin, donc les soins médicaux et de réadaptation.
D'accord.
Voilà, c'est les établissements de santé. Soit à travers d'autres CEPOM qu'on a conjoint entre l'ARS et d'autres collectivités, par exemple l'ARS et le Conseil départemental de la Haute-Garonne, l'ARS et le Conseil départemental de l'Hérault. Donc voilà, donc on a à peu près trois quarts du budget, l'ARS Occitanie, et le reste, c'est les conseils départementaux des territoires où nous sommes présents.
Vous êtes une femme et directrice engagée et impliquée, vous êtes à la FEAP. Alors rappelle-nous ce que c'est pour nos auditeurs, la FEAP, c'est votre fédération ?
La FEAP, c'est la fédération qui gère la convention collective employeur à laquelle nous sommes affiliés, qui est la convention dite 51.
Faites partie de la grande famille de l'économie sociale et solidaire.
Tout à fait, économie sociale et solidaire. Et puis de la grande famille de la future convention collective unique étendue avec nos amis d'Access. Voilà.
Donc, un de ces jours, on verra ça. Et vous êtes également impliqué dans beaucoup d'instances régionales
oui, alors,
pour défendre, pourrait-on dire, les intérêts de... des personnes. Quoi.
Oui, alors j'ai aussi un engagement au sein de la Haute Autorité de Santé, puisque je suis experte au sein de la commission spécialisée médico-sociale, qui est l'une des commissions spécialisées de la Haute Autorité de Santé, qui regroupe tout le secteur handicap, personnes âgées et tout le secteur social. Et c'est dans le cadre notamment de cette commission qu'on a validé le référentiel unique qui est désormais la référence pour conduire les démarches d'amélioration de la qualité dans les établissements médico-sociaux depuis 2022.
Justement, les établissements de l'ASEI sont passés par les fourches codines de l'évaluation.
On est en train, effectivement. On a une vingtaine d'établissements qui ont déjà, qui se sont déjà engagés dans cette évaluation HAS nouveau référentiel, avec beaucoup, beaucoup d'entrain et de succès, puisque en général, les évaluations se passent très bien et permettent aussi de pointer les sujets d'amélioration. Et là aussi, on en trouve toujours.
Et
c'est tant mieux. Voilà. C'est aussi, ça sert aussi à ça, à s'améliorer.
Ça veut dire que les institutions sont vivantes. Hein.
Oui, et puis il y a voilà. Des points sur lesquels on peut toujours progresser. Et c'est aussi une dynamique qu'il ne faut pas relâcher.
Pour parler rapidement de la gouvernance, votre conseil d'administration, c'est combien de personnes ?
24.
24 personnes.
24 administrateurs.
Qui viennent d'où ? Ce sont des parents,
alors on a
des
un
personnes
collège...
en situation d'handicapé ?
Oui, tout à fait, puisque dans nos 24 membres, on a 4 représentants des personnels qui sont désignés par le CS central. On a 4 représentants des familles et des personnes en situation de handicap qui sont désignés par les CVS. Et puis après, on a des administrateurs élus.
Ce n'est pas une question piège, hein, mais qui avait créé l'ASEI ? Si on revient un peu dans l'histoire, comme on dit, dans les sous-sols de l'ASEI, pour aller chercher les fondateurs, comment est née cette association ?
Alors, je pense que peut-être vous le savez mieux que moi encore, je ne sais pas, j'imagine. Les fondateurs, ils viennent d'anciens résistants, qui venaient pour beaucoup de l'éducation nationale, donc d'anciens recteurs comme Paul Dautin, Jean Lagarde, des personnalités qui, au sortir de la guerre, ont souhaité créer une association.
Donc des enseignants,
quoi. Oui, des enseignants, tout
très,
à fait.
Très,
mouvement,
très impliqués, des
mouvement éducation nationale,
éducation,
tout à fait.
Populaire et nationale, oui.
Voilà, éducation qui nationale. Ont souhaité créer une association pour proposer une scolarisation aux enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école à l'époque. Voilà.
Voilà la naissance. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous revendiquez
la
ma
laïcité.
Place,
ma place est en classe, comme nos fondateurs.
Il faut à tout prix. Voilà. Voilà. Ben écoutez, question plus personnelle. Mais vous avez démarré l'ASEI. Vous avez une vision bientôt pour 30 ans. Tous les matins, vous vous levez, vous avez envie d'aller au bureau.
Ah, j'adore mon métier.
Vous adorez votre métier.
Je le dis à qui veut bien me poser la question, que j'aime beaucoup travailler à l'ASEI. J'aime beaucoup l'idée d'avoir des convictions et un projet associatif extrêmement motivant tous les matins, extrêmement porteur, et d'être au service d'une cause qui est l'accès aux droits fondamentaux de toutes les personnes et de tous les citoyens.
Le PLFSS, qui est le budget de la sécurité sociale qui se discute actuellement au Parlement, votre présidente, Madame Barbotin, qui a dit « je suis militante, il faut militer », elle milite pour qu'on modifie ce projet de budget.
Oui, alors parce c'est à travers le...
C'est mal parti, des coups de rabot partout, là.
On est aussi...
Non, n'allons pas trop loin, juste un petit moment de militantisme.
Vous avez raison, on est aussi dans le collectif handicap au niveau national, qui a fait aussi tout un dossier de presse sur le fait que si on veut garantir l'effectivité des droits, eh bien, il faut des moyens. Il faut une allocation adulte handicapé décente qui permette à chaque citoyen de vivre dans son appartement, de faire ses courses, d'avoir des loisirs. Il faut des établissements qui soient financés à leurs justes besoins. Et il faut des professionnels rémunérés pour leurs compétences et leur expertise. Donc là, ça veut dire qu'il faut effectivement mettre de l'argent sur la table pour tout ça.
Agir pour tous les possibles, ou en tout cas rendre possible ce qu'est cette table. Vous parlez de plein épanouissement des personnes en situation de handicap. En revanche, dans votre texte, je n'ai pas trouvé le terme « émancipation ». Et pourtant, faut-il émanciper les hommes et les femmes que vous accompagnez? Est-ce que c'est...
Oui, dans le pouvoir d'agir, il y a aussi la notion d'émancipation, effectivement, et de pouvoir vivre libre et...
Libre, épanoui, émancipé. C'est ça le projet.
Émancipé, autonome et sans entrave.
Eh bien, je vous souhaite une belle vie, beau projet.
Merci beaucoup pour cette... Alors, c'était une première pour moi, cette, la radio, donc... Merci beaucoup.
Nous allons lancer cela dans les réseaux. Et puis, vous verrez, le réseau appelle le réseau. Donc, merci beaucoup, Madame
Lévrier. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup.
Invitation. Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité. Écoutez, à la semaine prochaine avec d'autres invités. Merci.